Attention, attention, le podcast des petites frousses y contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
Tout le monde connaît le triangle des Bermudes?
Mm-hmm.
Saviez-vous qu'il existe d'autres triangles où des phénomènes étranges ont lieu?
Non.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de la vente pyramidale. Non, c'est pas vrai. Je vais vous parler du triangle de Bennington.
Ooh.
Ooh. Le nom de triangle de Bennington provient d'un folkloriste et auteur, Joseph A. Citro. Le triangle de Bennington, c'est un endroit au Vermont, aux États-Unis. C'est pas un triangle parfait, là. C'est pas la forme d'un triangle, mais c'est inspiré du triangle des Bermudes. Consiste d'un regroupement de villages puis de régions, incluant Bennington, Woodford, Somerset, Shaftesbury. Il y a aussi un village de Glastonbury. Ben, le nom du village, c'est Glastonbury. Puis, il y a le mont Glastonbury qui est au centre. Puis, il y a aussi la forêt nationale de Green Mountain.
Mm-hmm.
Toutes ces régions-là représentent le triangle de Bennington et le triangle de Bennington est lié à une multitude d'événements inexpliqués, de disparitions mystérieuses et d'activités paranormales depuis les années 1800. Puis là, je parle d'objets volants non identifiés.
Ah non!
Aliens!
De monstres, de malédictions, de vortex, etc.
My lord!
Je vais vous parler un peu de l'histoire de Glastonbury parce que c'est une des municipalités de Bennington, du triangle de Bennington. Puis j'ai l'impression que c'est pas mal le point de départ de tous ces phénomènes étranges-là. D'après un livre de Joseph A. Citro, c'est l'homme qui a donné le nom de Triangle de Bennington, il y a plusieurs centaines d'années, bien avant que Glastonbury soit Glastonbury, les Premières Nations ne voulaient pas s'y installer. Ils disaient que les 80 s'y rencontraient et se livraient à une lutte éternelle. En gros, ils croyaient que les terres étaient maudites. Les Premières Nations allaient juste là-bas pour enterrer leurs morts. Ça sonne vraiment comme un mythe tout ça. T'sais, on s'entend, il y a un petit peu de vérité. C'est vrai que sur les montagnes de Glastonbury, le vent est vraiment imprévisible. Les plantes et les arbres poussent dans des drôles d'angles.
Ah, ouais.
En 1761, Glastonbury fut cartographié par le gouverneur Benning Wentworth et la majorité du village fait partie de la forêt nationale Green Mountain. C'est un peu un échec parce que la majorité du village est une forêt. Les terrains étaient rocailleux. Puis en plus, Glastonbury, comme j'ai dit tantôt, c'est sur le top d'une montagne, fait que c'est très difficile de s'y rendre. 30 ans plus tard, en 1791, il y avait seulement 6 familles qui habitaient à Glastonbury. C'est 34 personnes. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y a des familles qui ont quitté, il y en a d'autres qui s'y sont installées, mais tu sais, il n'y avait pas fou à Glastonbury. Déjà à cette époque, les habitants se plaignaient qu'il se passait des choses étranges. Il y avait des odeurs bizarres dans la forêt, il y avait des bruits, puis il y avait des lumières étranges. Quand ta forêt pue, ça va pas bien.
C'est ça que j'allais dire.
Après la guerre civile qui s'est terminée en 1865, Glastonbury a connu une croissance significative. Des municipalités avoisinantes ont commencé à avoir intérêt, surtout d'un angle commercial, parce qu'il y avait du bois. Il y avait du bois, il y avait des minéraux, il y avait du charbon. Crache la cache, on s'en va bûcher.
OK.
En 1872, Glastonbury a commencé la construction d'un chemin de fer. C'était pas vergeux, mais ça aidait au déplacement. La ligne de ce chemin de fer grimpait jusqu'à 250 pieds dans les airs.
Mmh.
Glastonbury est sur montagne, fait que c'est normal, mais autrement dit, c'est un manège.
C'est ça.
La descente devait être intense.
J'adore.
Attache ta robe, on s'en va au village. À la fin des années 1880, la montagne était presque entièrement rasée de ses arbres matures et l'économie de la ville a chuté drastiquement. Le projet de chemin de fer a été abandonné. La population qui avait atteint les 240 habitants s'est mise à chuter également. Puis en 1894, la partie sud de Glastonbury a été convertie en attraction touristique. Il y avait une salle de bal, il y avait des restaurants, il y avait un casino, puis un autre chemin de fer électrique qui a été construit. C'était un genre de chariot pour promener le monde, pour les attirer vers ce petit village touristique.
C'était Vegas.
Mais Colin, en 1898, l'année d'ouverture des attractions, il y a eu une immense inondation. Ça a détruit le chemin de fer et les ponts pour se rendre à Glastonbury. Après cette inondation, ben, l'inondation est arrivée parce qu'il n'y avait plus assez d'arbres pour combattre l'érosion.
Ah!
Fait que leur, tu sais...
Dame nature s'est choquée.
Plus personne ne pouvait se rendre là-bas. Les attractions fermées. Comble de désespoir, en 1903, il y a une éclosion de variole dans un camp de bûcherons. Les habitants ont quitté Glastonbury les uns après les autres. En 1937, la ville a été désincorporée et Glastonbury est devenue une ville fantôme.
Ouh! J'ai goût d'y aller maintenant.
Ça existe-tu encore?
Ben, tu peux y aller encore. Il y a 6 personnes qui habitent là.
OK, ouais.
Il y a encore 6 familles.
Non, 6 personnes.
Oh, shit!
Okay. Pendant un bout, il y avait 3 personnes de la même famille qui habitaient là. C'est tout. Au top d'une montagne, là, isolée, raide.
Ils possèdent la ville.
Ah, ouais,
j'adore.
Ben, ouais. Leur petit restaurant. Pis...
Moi, je repartirais le casino. All in. Juste pour les 3, là. T'amuses.
Maintenant, on peut parler des faits étranges qui ont pris place dans le triangle de Bennington. Il y en a tellement qu'il va falloir que j'y aille en bloc, genre.
OK.
Vous allez voir. On va commencer avec le monstre de Bennington.
Oh!
La première observation aurait eu lieu au début du 19e siècle. Un groupe s'est déplacé en carrosse en direction de Glastonbury. Puis il y a eu une averse. Puis ça a rendu la route un peu moins battue, mettons. Le groupe s'est arrêté. Puis l'un d'eux est sorti pour voir l'état de la route, à savoir s'il devait continuer de monter la montagne ou pas. Puis il a vu des grosses traces de pas dans la boue. Puis les pas, ils étaient pas mal loin les uns des autres. Ça veut dire des grandes pattes.
Des grandes enjambées.
Puis là, le bonhomme, il a réalisé. Ça fait pas longtemps qu'il y a plu. Qu'il y a plu. Ça veut dire que ça fait pas longtemps qu'il y a de la boue. Ça veut dire que ça fait pas longtemps que la chose qui a fait ces traces-là les a faites.
Ooh.
Ça veut dire que la chose est proche de nous. Là, les chevaux sont mis à agir bizarrement. Là, le reste du monde dans le carrosse, on remarquait une paire de yeux brillants dans le bois. À travers les arbres. La créature à qui appartiennent les yeux a attaqué le carrosse.
Oh shit, okay.
La renversant sur le côté avant de disparaître dans la forêt. Point. Elle a renversé le carrosse puis elle est repartie dans la forêt.
Puis dis-tu, ça avait l'air de quoi, genre Sasquatch-ish? Ou...
Ben, ouais. Ils ont dit que ça mesurait plus de 8 pieds puis que c'est couvert de poils foncés. C'est une belle histoire quand même. C'est sûr que ça a été romantisé au fil des années, mais les cryptozoologues sont convaincus que c'était une apparition d'un Bigfoot.
Bon.
Ouais, ben c'est ça, ça sonne de même.
Ça sonne de même. Croyez-vous au Bigfoot? Croyez-vous à ça, vous autres?
Non.
Pas vraiment.
Ah non?
Pas vraiment, non.
Ah.
Je pense pas. Mais je me dis qu'on l'aurait vu, tu sais.
Ouais. Moi, je pense qu'ils ont vu un gros ours, puis il était bien chaud, puis ils ont pensé que c'était un Bigfoot.
Il buvait dans le carrosse.
Il buvait dans le carrosse dans ce temps-là. On est en quelle année déjà?
En 1800, là.
Oh, il était chaud. Il était chaud dans le carrosse.
Il y a une observation qui a été plus récente, par contre, qui date de 2003. En septembre 2003, Ray Dufresne conduisait près de la montagne de Glastonbury, puis il a aperçu une chose noire le long de la route. Il dit que la chose mesurait au moins 6 pieds, puis était poilue de la tête aux pieds. Toujours au mois de septembre 2003, il y a un homme qui s'appelle Doug Dorst, qui était en voiture près du collège de Bennington, puis il a vu au loin ce qui passait être un homme dans un gros tapis de neige. Quand il s'est approché avec son auto, il a réalisé que la chose était immense et trapue et était définitivement pas humaine.
Ça pourrait-tu être le bonhomme carnaval?
J'allais dire ça!
Le bonhomme carnaval en vacances, il allait au casino de Glastonbury, gaspiller ses petites pièces.
Quand il est pas ici pendant le carnaval, il se pousse là-bas. Il fait sa petite vie tranquille avec sa petite dans le bois. J'ai la paix.
Quand elle a commencé à décrire la créature, j'ai tout de suite vu Monsieur Carnaval.
Mon esprit n'est pas allé au même endroit du tout que vous. Prochain épisode, le mystère du bonhomme Carnaval. Les policiers ont soupçonné que c'était un gars qui s'appelait Michael Green, qui était un faiseur de farce dans le village. Mais Michael Green a nié, affirmant qu'il n'était pas assez cave pour courir dans le bois dans un costume de poêle en pleine saison de chasse.
OK, ouais, non, ça n'aurait pas été brillant.
Ensuite de cela, une autre apparition étrange dans le triangle de Bennington, l'homme sauvage de Glastonbury. J'ai trouvé un vieil article du journal Harrisburg Daily Independent qui date du 20 janvier 1877 qui dit, et je cite, « Un homme sauvage est au centre du plus récent émoi de Bennington. Il serait gros et poilu, avec un visage rouge et s'amuse à jeter des pierres aux granges et à pourchasser les femmes. »
Shit!
En 1967, presque 100 ans plus tard, il y a eu un retour de l'homme sauvage. Il y aurait eu un incident où il y avait un homme qui sortait du bois avec un manteau tout en lambeaux, genre sur le dos. Il ouvrait son manteau pour montrer son corps nu. Il montrait son gun, là, puis il l'agitait, là, puis il repartait dans le bois en courant.
OK.
Fait que là, le monde pense que c'est un petit monsieur qui habite dans une grotte dans Somerset, qui est un des villages de Bennington. Fait que ça, c'est l'homme sauvage.
Ça, c'est... Ouais.
C'est juste un gars un petit peu étrange. Il vit dans le bois. Il se met tout nu, il monte ça au garage.
C'est pas
une bête.
Mm-hmm. OK.
Juste un homme sauvage. Là, on tombe dans les meurtres et les disparitions. Plus ça va y aller, plus ça va être bizarre.
Okay.
Le premier meurtre a eu lieu le 4 avril 1892 dans la ville de Fayville, au cœur du triangle de Bennington. John Crawley, un homme de 38 ans, a été tué par son collègue de travail, Henry McDowell. Les deux hommes travaillaient dans une scierie d'Eagle Square.
Une scierie.
OK. Ils le sciaient du bois.
Ah, OK. Voilà, voilà.
Personne ne sait réellement ce qui s'est passé ce jour-là. Des historiens locaux affirment que les deux hommes auraient trop bu, se seraient mis à se disputer, puis la situation aurait tellement dégénéré que Henry McDowell aurait donné des coups soit de roche ou de morceaux de bois à la tête de John Crowley, ce qui a évidemment défoncé son crâne. Quand Henry McDowell a réalisé que ouais, John Crowley est mort, bien, il s'enfuit, il a pris un train. Puis finalement, bien, il s'est jeté en bas du train, grosse affaire. Son but, c'était de se rendre au Canada.
Chez nous.
Mais il s'est pas rendu parce qu'il s'est jeté en bas du train. Henry McDowell s'est finalement rendu aux autorités. Il était rendu au Connecticut. Puis c'est quand même une bonne distance du Vermont où est-ce que le triangle de Bennington est puis où est-ce qu'il a tué son collègue. Henry McDowell a immédiatement avoué son implication dans le meurtre. Il a purgé sa peine dans un hôpital psychiatrique de l'État du Vermont parce qu'il disait entendre des voix dans sa tête qui lui auraient dit de tuer son collègue. Sa sentence se déroulait bien. Henry McDowell a réussi à obtenir des petites jobines dans l'hôpital psychiatrique où est-ce qu'il était interné, dont une qui lui permettait de travailler dans le cours. Grâce à ça, Henry McDowell est parvenu à s'échapper de l'hôpital en se cachant dans un wagon de train qui transportait du charbon. Il n'a jamais été revu depuis. C'était bien lui l'homme sauvage.
Mais oh!
C'est peut-être bien lui l'homme sauvage.
Mais il y a une couple d'années, d'années qui les sépare. Là. Ils ont moins 100 ans, presque 100 ans. C'était en 1892. L'homme sauvage le plus récent a été vu dans les années... 1967, à moins qu'il ait trouvé une petite fontaine de jouvence dans le bois. On le sait pas, hein, le triangle de Bennington, ben des affaires. Deuxième meurtre, le 1er octobre 1897. C'était le premier jour de la saison de chasse aux chevreuils de l'État du Vermont, genre la première à vie.
Ah.
Puis John Harbour, un père de famille de 4 enfants, faisait partie des chasseurs de chevreuils, est accompagné de son frère et d'un ami. Les 3 hommes se sont dirigés à Bigford pour se procurer de la bonne petite viande de bois. Puis à un moment donné... Ils ont comme été séparés. Ce qui arrive, quand tu chasses, là, tu te sépares. T'sais. En tout cas, le frère de John Harbour et son ami ont entendu un coup de fusil. Ils ont entendu John s'exclamer « Quelqu'un m'a tiré! » Puis ils se sont tout de suite précipités pour aller l'aider, mais ils n'ont jamais été capables de le trouver. Le jour suivant, le corps de John Harbour a été trouvé. Il avait été soigneusement placé en position assise à la base d'un cèdre. C'est à cet endroit qu'il s'est lentement vidé de son sang à cause de sa blessure par balle, puis son fusil était entièrement chargé à côté de lui. C'est possible que tout ça, c'est un accident de chasse. C'est des choses qui arrivent. Personne n'a confessé avoir été responsable de la mort de John Harbour. Personne n'a été accusé non plus. Puis sa femme est décédée 43 ans plus tard sans savoir qu'il avait tué son mari.
Triste.
Fait que ça, c'est les 2 meurtres du triangle de Bennington. Il y en aurait eu un troisième. Moi, j'ai pas trouvé un troisième, en tout cas dans ces années-là, là, mais je l'ai pas trouvé. Là, on passe aux disparitions. Là, ça s'en vient bizarre. En novembre 1943, Carl Eric, un amateur de plein air de 37 ans, est en voyage de chasse avec son cousin Henri. Il se trouvait à environ 15 kilomètres au nord-est de Glastonbury, puis bien classique, Carl et Henri se sont séparés. Après un certain temps, Henri ne trouvait plus Carl, puis il retourne au campement. Carl, lui, il n'est jamais revenu. Henri a attendu un certain temps, c'est pour lui laisser une chance de revenir, tu sais, ou de le rejoindre. Mais là, à un moment donné, il faisait un bout, puis il a décidé d'alerter la police. L'endroit a été investigué, ils ont cherché, pas une trace de Carl. 3 jours plus tard, Carl est retrouvé. Il était étendu sur le dos, mort. Carl n'avait aucune trace de blessure externe. Son fusil avait été accoté sur un arbre, étrangement loin de lui. Aucune balle dans son fusil avait été tirée. Moi, quand j'entends ça, je me dis que c'est un arrêt cardiaque. T'sais, il a tombé sur le dos, puis son gars était plus loin, il pissait, je suis moi. Mais
ouais.
Les policiers ont trouvé des pistes autour du corps de Carl, de ce qu'ils pensaient être celle d'un ours. Mais c'était quand même gros pour un ours. Puis mettons que c'est un ours, il y aurait des blessures externes. Tu sais, il y aurait des graphines, il y aurait des morsures, je sais pas. Carl aurait pris son fusil, il aurait couru, il aurait pas juste tombé sur le dos. Il y a une autopsie qui a été faite, puis ça a révélé que Carl avait été écrasé avec une force si grande que ça avait cassé ses côtes et celles-ci ont empalé ses poumons. Puis c'est de ça qu'il est mort.
Shit!
Mais aucune trace externe.
Ouais, c'est ça qui est bizarre.
Ouais, c'est weird.
Ouais. Mais il y a pas un ours qui prend puis qui te serre. Tu sais, c'est un ours, ça me semble, ça te pogne, ça te roule, ça te pousse, ça te fait plein d'affaires. En tout cas, des attaques d'ours que j'ai entendu parler, là.
Ouais, ouais.
Je n'ai jamais croisé un ours. Il aurait crié.
Sinon, il aurait. Si, tu sais, l'ours aurait pu sauter, comme il sautait dessus.
Ouais. Jouer
mais,
avec.
Mais je sais pas, là.
Ça aurait fait des traces.
Ça reste, c'est ça, ça reste qu'il n'y a pas de traces.
Non, il y aurait au moins une petite graphie.
Quoi?
Il aurait crié. Il l'aurait trouvé quand ils l'ont cherché.
Ou il est peut-être un ours qui est passé après, là.
Ouais,
il était à terre, puis l'ours a passé, puis il a sniffé. Là,
tu sniffes, puis il est gone.
C'est plus ça que...
En même temps, ça explique pas les poumons perforés.
Non, 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 ça explique pas ça, mais ça veut pas dire que c'est un ours qui l'a fait.
Non, ça veut pas dire que c'est un animal.
Ça explique les pas
autour. Ouais.
Pas okay. Vous.
Ça peut être un animal. Ou l'homme sauvage.
La prochaine, encore une fois, une disparition, c'est celle de Midi Rivers. C'est souvent nommé comme étant la première disparition documentée, mais c'est faux. Fait que si jamais quelqu'un décide d'aller googler, c'est des pacotilles. Midi Rivers, c'était un homme de 74 ans. C'était un guide de chasse. Malgré son âge, il était en forme et très en possession de ses moyens. Il connaissait le coin, c'était un adepte de plein air expérimenté. Je ne sais pas si vous avez remarqué un pattern que c'est tout du monde qui chasse, du monde qui connaît le bois,
ouais, c'est souvent
du monde expérimenté. C'est souvent l'automne. Mm-hmm. Vous allez voir, c'est tout le temps l'automne. Septembre, novembre, décembre, c'est pas mal tout le temps que ça se passe.
Ben, en même temps, c'est la saison de chasse. Ouais.
C'est sûr. Ouais. En tout cas, mais il y en a d'autres, là, vous allez voir. Plusieurs contextes. Fait que le 12 novembre 1954, Midi Rivers guidait quatre chasseurs dans la forêt, au sud-ouest de Glastonbury. Plus précisément encore, il était dans une région qui s'appelle le Hell Hollow, qui se traduit par enfer creux.
Oh!
Oh.
OK, oui. Hell.
Hell Hollow. Toujours dans le triangle de Bennington. En chemin du retour de leur petite séance de chasse guidée par Midi Rivers, il a pris les devants. C'est normal, c'est le guide. Mais à un certain moment, les quatre autres chasseurs l'ont juste perdu de vue. T'sais, c'était bizarre parce qu'il était là pour les guider, puis à un moment donné, ils suivent plus. Pis la dernière fois qu'ils l'ont vu, ce sera environ vers 16h. Puis selon les légendes, puis tout ce qui se rattache au triangle de Bennington, les choses étranges se déroulent généralement en fin d'après-midi vers 15h et 16h. Puis là, les quatre chasseurs qui étaient avec Midi, ils se sont dit « on va continuer pareil, puis on va finir par leur rejoindre, tu sais, on va leur pogner ». Ils se sont finalement rendus à la destination avant Midi Rivers. Ils auraient dû arriver en premier parce qu'ils étaient en avant d'eux autres. Ça veut dire que Midi Rivers aurait perdu de la vitesse et que le groupe l'aurait dépassé. Le groupe a essayé de le retracer, sans succès. Ils se sont rassurés en disant que Midi Rivers était largement capable de survivre en forêt puis que ça serait une question de temps avant qu'il refasse surface. Durant les jours suivant la disparition, entre 300 et 500 personnes, incluant des gens de l'armée, se sont mobilisées pour essayer de le retrouver. Les recherches ont duré 8 jours, puis malheureusement, Midi Rivers n'a jamais été retrouvé. La seule trace de lui est une cartouche de son fusil de chasse qui a été trouvée tout près d'un ruisseau. Mais pas un fragment de balle, là, vraiment la balle.
Okay.
Comme si ça avait tombé de son fusil ou de son sac.
Ouais, c'est ça, ça n'a pas été tiré.
Ouais, c'est ça, ça n'a pas été tiré. Puis il n'a jamais été retrouvé. Prochaine disparition, c'est en 1946. C'est le cas de Paula Weldon. C'est le cas de disparition le plus connu du triangle de Bennington. Paula avait 18 ans. Puis c'était une passionnée de plein air. C'était une jeune étudiante en art et elle était à sa deuxième année au collège de Bennington. Le 1er décembre 1946, après son quart de travail à la cafétéria du collège, en fin d'après-midi, Paula a décidé d'aller prendre une marche. Elle décide d'aller à un sentier qui s'appelle littéralement le Long Sentier, The Long Trails. Puis ce sentier-là s'étend sur 439 km à travers le Vermont puis se termine à la frontière canadienne. Oh, c'est long, là. T'sais, tu peux commencer un peu n'importe où sur la trail, là. Fait qu'en tout cas, elle a dit « je m'en marche là-dedans ». Puis des gens qui se promenaient dans le sentier ont vu Paula. Ils ont dit qu'elle portait un manteau rouge vif, puis c'est grâce à ce manteau-là que plusieurs personnes l'ont remarqué, justement. Un homme qui se serait perdu se serait fait donner des informations par Paula. Un couple plus âgé s'est souvenu avoir suivi Paula pendant une certaine période de temps. Puis selon eux, il devait être à peu près 16 heures. Quand le couple a tourné le même coin, Paula avait disparu. Le lendemain, sa colocataire à l'université a remarqué que Paula n'était pas revenue et qu'elle ne s'était pas présentée à aucun de ses cours. Paula Weldon a alors été portée disparue. Des mesures ont été entreprises pour retrouver Paula. Son père avait beaucoup d'argent puis une récompense de 5 000 $ qui a été offerte. Le FBI a même offert son aide. Il y a eu des survols aériens, il y a eu beaucoup de presse. Puis malgré tous ses efforts, aucune trace de Paula Weldon n'a été retrouvée. Puis c'est à partir de ce moment-là que des gens se sont mis à croire que c'était malchanceux de porter du rouge dans le triangle de Bennington.
Oh!
OK.
Genre, tu portes pas du rouge vers 3-4 heures dans le triangle de Bennington, dans la forêt Green Mountain, tu fais pas ça. La prochaine disparition, c'est tellement bizarre, je comprends pas. C'est la disparition de James Tedford, qui s'est volatilisé le 1er décembre 1949, 3 ans, jour pour jour, après la disparition de Paula Weldon. James Tedford était un homme de 68 ans. C'était un vétéran de guerre, puis à la fin de ses services militaires, il est revenu chez lui. Puis il a remarqué sa femme, Pearl Tedford, avait disparu. Puis leur maison était en ordre. Il y avait même un repas à disposition qu'elle était en train de préparer. Mais elle était juste pas là. James Tedford, il s'est dit, peut-être sa femme est allée faire une petite commission. Mais elle est jamais revenue. La police a suggéré qu'elle était sûrement enfuie avec un autre homme. Ça se peut. Par après, James s'est débarrassé de leur maison, puis est emménagé dans une maison de retraite pour les soldats de guerre à Bennington. En automne 1949, James rendait visite à des membres de sa famille à St. Albans, toujours au Vermont. Le 1er décembre, il se prépare pour son retour chez lui. C'est un voyage d'environ 8 heures. C'est long, mais James est habitué. Faisait occasionnellement la route depuis quelques années. Des proches de James Tedford l'ont accompagné à la station d'autobus. Durant le voyage, les passagers l'ont vu. Le chauffeur l'a vu. Il y a des passagers qui lui ont parlé. C'est des gens qui se connaissaient tous, tu sais. Donc James était là tout le long, dans son siège. Mais entre l'avant-dernier arrêt et le terminus de Bennington, James Tedford a disparu. Il était
dans
plus là.
Bus,
dans le bus.
What?
Il a disparu dans le bus. Puis le monde y a parlé, là. Tu sais, le monde, ils l'ont vu, là. C'était pas genre, ah, oh, je l'ai. Ouais, je l'avais vu. Non, non. J'y ai parlé.
C'était trois ans jour pour jour, la même date que
exactement.
Paul.
Exactement.
Non, ouais.
Les 14 passagers et le chauffeur ont tous confirmé que James Tedford était présent à bord et puis s'est volatilisé en deux arrêts. Sa valise était encore dans l'autobus, puis son ticket de bus était sur son siège.
Fait que lui, il est reparti d'un arrêt avec son stock, l'autobus est parti, puis quand il arrivait à l'autre, il n'était plus là.
C'est ça. Ils ont débarqué un petit arrêt, le monde part, merci, bonsoir, on déchire l'étiquette, peu importe. Lui est là, le monde fait comme « Hey, prochain arrêt terminus, hein, mon James? » Oui, monsieur. Rendu à mi-chemin, il est plus là.
Puis ils peuvent témoigner qu'il était remonté dans le bus.
Ben oui, parce que ils l'ont vu, ils ont parlé, une grande chum, James, on le connaît, c'est un vétéran.
Colique.
Ouais. C'est possible qu'il soit descendu et que personne ne le voit, mais pourquoi sa valise, elle sera encore là? Pourquoi tu pars dans ta valise? Pourquoi tu pars quand tu passes en avant du bois? Il n'a jamais été revu après.
Est-ce qu'il portait du rouge?
Selon les témoignages, ils n'ont pas pu témoigner. Non, c'était pas écrit pour vrai. Puis, si on rejoint tous les témoignages, la dernière fois que quelqu'un a vu James, c'était juste avant que l'autobus passe à côté de la forêt nationale Green Mountain, qui fait partie du triangle de Bennington.
Voilà. J'irai pas là, finalement. Je veux plus y aller.
J'irai là, mais en grosse gang. Faut pas qu'on se lâche. On se tient qu'une laisse. Prochaine disparition, c'est elle d'un petit poussé de 8 ans.
Oh non.
Un petit Paul Jepson.
Oh non.
La famille de Paul s'occupait de des fermes, genre de nourrir les animaux, puis aller dans une ferme, y aller dans une autre, tu comprends? Puis le 12 octobre 1950, toujours l'automne, je prends le temps de le spécifier, Paul était avec sa mère, puis elle, elle s'occupait d'une ferme. Elle a décidé de laisser Paul seul dans la boîte de son pick-up, de sa camionnette, puis elle irait nourrir des cochons. Paul était sans surveillance. Quand la mère de Paul Jepson eut terminé de nourrir les cochons, Paul n'était plus là. Sa mère aurait paniqué, puis elle aurait essayé de le trouver. Elle s'est dit que ce serait facile à le distinguer parce qu'il portait un petit manteau rouge.
Ah non!
Paul n'a jamais été retrouvé. Beaucoup pensent que sa mère l'a tué puis l'a donné à manger aux cochons. Cette rumeur-là a même été dite dans les journaux. Ils ont imprimé ça dans les journaux.
C'est chiant pour la mère si c'est pas le cas, là. On s'entend-tu? Elle est déjà dans le deuil puis dans l'incompréhension. On se fait dire qu'elle a tué son enfant.
D'autres pensent qu'il a été kidnappé parce que des chiens pisteurs ont détecté une piste qui s'arrêtait abruptement sur le bord d'une route. Puis il y avait une paire de gants pour hommes trouvée juste à côté d'où l'odeur s'arrêtait. Fait que peut-être que quelqu'un est passé en auto. Il a vu le petit ponce. Goodbye. Le père de Paul a dit dans une entrevue que dans les jours précédant sa disparition, il n'arrêtait pas de parler des montagnes. Il y avait une genre de fascination, puis ses parents ne comprenaient pas d'où ça venait. C'est comme s'il avait été interpellé par le triangle de Bennington. 16 jours après la disparition de Paul, il y a eu une autre disparition. C'est Freda Langer, une femme de 53 ans, puis d'autres membres de sa famille étaient en camping. Il était au flanc des montagnes de Glastonbury, près du réservoir Somerset. Le 28 octobre 1950, Freda Langer et son cousin Herbert Elsner ont quitté le campement pour aller faire une petite randonnée à peu près 100 mètres plus loin. Freda glisse et elle tombe dans un ruisseau. Elle décide d'aller changer ses vêtements. Elle dit à son cousin de l'attendre qu'elle va aller au campement se changer, que ça va juste prendre 5 minutes. Après un petit bout, Freda revient pas. Herbert, le cousin de Freda, il retourne au campement pour voir ce qui lui prenait autant de temps. C'est avec choc qu'il a su que Freda ne s'est jamais rendue au camp. Au cours des semaines suivantes, plusieurs équipes de recherche se sont formées pour la retrouver. Il y a eu 400 personnes qui ont mis la main à la porte. Il y avait des pompiers, des soldats, policiers, des volontaires, des hélicoptères, à toute l'équipe. Pas une trace de Freda Langer. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans 100 mètres? 7 mois plus tard, le 12 mai 1951, Freda Langer a été retrouvée morte à proximité du réservoir de Somerset. Aucune cause de décès a pu être déterminée en raison de l'état avancé de décomposition du corps. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune autopsie qui a été effectuée. parce qu'un docteur sur place a jugé que sa mort était due à une noyade. Mais tu sais, c'est bien fin ton hypothèse, là, mon docteur, là, mais y a-tu d'eau dans les poumons? Y a-tu, tu sais, il m'en faut plus.
Mais ils l'ont retrouvée dans l'eau ou à non, côté? Non. Fait qu'elle se serait noyée puis elle est sortie après mourir.
Pas clair.
Clairement, c'est pas une bonne réponse. Peu importe.
Une chose très étrange, c'est que l'endroit où son corps a été retrouvé avait été fouillé. Puis c'était pas un endroit plein d'arbres où son corps aurait pu être camouflé. Là. C'était une aire ouverte. Son corps était pas camouflé. Il était juste là. Fait que ça veut dire que la personne ou la chose qui l'a attaqué le plaçait là après que ça l'ait été fouillé.
C'est ça. Est-ce qu'elle portait du rouge?
Ce n'est pas spécifié, selon mes sources. Mais
elle n'a pas disparu. T'es morte.
Ouais.
À date, le monde portait du rouge. Ils ont disparu. Elle, on l'a retrouvé.
C'est vrai.
En octobre 1981, trois chasseurs auraient disparu dans le triangle de Bennington. Il n'y a aucune documentation qui prouve que c'est réellement arrivé. Il y a zéro rapport de police. Je le dis pareil. Le 17 octobre 2019, une mâchoire a été retrouvée dans un gravel pit tout près du réservoir Somerset. Les restes appartenaient à Jessica Hildenbrandt, une femme de 43 ans, originaire de New York. La police a jugé que c'était un homicide, mais rien d'alarmant pour la population. Ce qui est bizarre avec ça, c'est que son surnom, c'était Red, rouge, parce qu'elle était rousse. Celui-là est bizarre. C'était un peu plus poussé. Ouais. Tu sais, mettons que c'est un alien là, qu'ils enlèvent. Ils voient du rouge, ils voient une tête rouge. Merci, bonsoir. Ouais. Le 19 juillet 2021, un homme nommé Joseph Schoening, 73 ans, disparaît. Il a été retrouvé mort au mois d'août 2021. Puis Joseph Schoening s'est enlevé la vie dans son camion avec une arme à feu. Il était dans le stationnement du réservoir Somerset et son camion était rouge. En mai 2018, il y a eu un écrasement d'avion. Là, je ne sais pas c'est quoi le modèle, là, je comprends pas ce que je dis, mais je vais le dire pareil. C'était un Piper PA-43-200T bimoteur de 1975.
Okay? C'est un petit avion privé. Là. C'est comme des petits avions à hélice.
Ah, okay.
Deux hélices chaque bord, mais c'est pas gros.
All right.
Il y avait seulement le pilote à bord, puis lui, il avait 6 ans d'expérience. L'administration fédérale de l'aviation avait perdu contact avec le pilote pendant qu'il survolait Bennington vers 15h30. L'avion s'est écrasé dans le bois et le pilote en est décédé. Les autorités n'ont pas révélé ce qui s'est passé, mais la météo ne serait pas en cause.
Ooh.
Fait que c'est pas mal ça, mettons, les choses étranges qui se sont passées à Bennington. Il y en a d'autres, mais des fois, c'est dur de dire « Ouais, c'est vraiment arrivé ou ben, tu serais mort. »
Ouais.
Fait que là, on est rendu aux théories.
Mm-hmm.
Fait qu'on a parlé du Bigfoot, on a parlé de malédiction. Il y en a d'autres. Il y en a qui sont cocasses, il y en a qui sont peut-être plus ancrés dans la réalité. Est-ce que vous en avez à me proposer avant que je vous les énumère?
C'est sûr que moi, je suis pas une fille d'alien, hein. J'aime pas ben ben ça. Mais je pense qu'il y a de quoi, genre style trou noir, là, un vortex ou something. Je suis quétaine de penser ça.
Moi, honnêtement,
assume-le.
Moi, j'en ai pas, là. Dans le sens que je pense que c'est juste c'est une grosse forêt, probablement dense, un peu probablement compliquée parce que, tu sais, comme tu l'as dit au début, là, il y avait les vents sont intenses. Puis ça doit être une place difficile à naviguer en général, puis le monde se perd.
Ok, je laisse tomber mon histoire de vortex, là. Je pense que peut-être qu'ils se sont juste fait bouffer carrément par genre un gros eau. Tu laisses comme pas de traces. T'sais, ils mangent tout. Tes chouclaques, tes vêtements.
Mais ils retrouveraient des ossements, par contre.
Ouais, ils trouveraient au moins un soulier, une pièce.
Ils finiraient par retrouver quelque chose, parce qu'un animal, ça mangera pas ton, justement, là, tes souliers puis les os. Là, t'sais, ça mange la viande, mais ça laisse le reste. Fait qu'ils auraient quand même retrouvé de quoi. C'est bizarre qu'ils trouvent jamais rien. Puis ça doit être difficile de chercher quelqu'un qui s'est perdu, parce que la dernière fois qu'il a été vu à un point, il peut être rendu crissement ailleurs. T'sais.
Hey, ça, là, pour vrai, là, c'est un truc de survie, là. Si tu te rends compte que t'es perdu dans le bois, essaie pas de retrouver ton chemin. Bouge pas.
Mm-hmm.
Parce que tu peux t'enfoncer. Ils vont se rappeler d'à peu près où ils t'ont vu. Fait qu'une première théorie, c'est un classique, c'est les suicides. Dans les cas de disparition puis de mort insolite, ça revient tout le temps. On le sait, là, on n'est pas à notre premier rendez-vous. Il y a beaucoup de comparaisons entre la forêt du triangle de Bennington puis la forêt Aokigahara. C'est sûr, je le dis pas comme il faut. Je m'en excuse. C'est une forêt qui s'étend à la base du mont Fuji au Japon.
Ah oui.
C'est ça, vous savez c'est quoi? C'est connu comme étant l'un des endroits ayant le plus grand nombre de suicides au monde.
Il y a pas un film là-dessus aussi?
Ouais.
Ça m'a fait peur, moi.
Les gens témoignent que les deux forêts ont le même genre d'ambiance sinistre. Mais je pense que c'est parce que c'est les histoires liées aux deux forêts qui les relient, là. C'est pas la forêt qui se ressemble. C'est même pas le même genre de verdure. Ça n'a rien à voir, là. C'est revenu dans le cas de Paula Weldon, l'étudiante au manteau rouge, puis de James Tedford, l'homme dans l'autobus que les deux étaient déprimés puis qu'ils allaient moins bien dans les jours précédant leur disparition. C'est possible qu'ils sont allés là pour mettre fin à leur jour, mais tu trouves un corps à un moment donné. À moins que là, oh, une bête est passée. Mm-hmm. C'est une possibilité. C'est pour ça que c'est une théorie. Deuxième théorie, une roche mangeuse d'hommes.
Oh,
non, ça, c'est la mienne. C'est définitivement la mienne.
C'est l'une des théories les plus étranges, puis qui nous provient de des légendes des Premières Nations. Puis, selon la légende, il y aurait une roche que si quelqu'un met son pied dessus, elle avalerait, se dit quelqu'un, et cette personne ne serait plus jamais revue. Fin. À moins qu'il y ait un trou en dessous, là. Prochaine théorie?
Attends un peu, là.
Oui, parle-moi de la roche.
Je vais parler plus de la roche.
J'ai aucune autre information à te donner pour la roche. C'est juste ça. Une roche, tu piles dessus, ton pied fait comme... puis tu t'en vas.
Ben, ça fait plein de sens.
Ben ouais, ça se peut. Ça se peut qu'il y ait juste de quoi, dans le fond, il y a comme une espèce de sable mouvant, mais c'est des roches mouvantes. La personne a disparu, je sais
j'aime
pas.
J'aime l'idée des sables mouvants ou d'autres quelconques bouettes.
Les bouettes mouvantes
parce
de
que
Bennington?
Sinon, la roche, on s'entend que ça revient à un vortex. Tu sais, parce que tu disparais dans la roche, tu disparais où?
En dessous de la roche. Ils trouvent pas passer dans la terre.
Pas sûr.
Avez-vous d'autres choses, d'autres questions à propos de la roche?
Non,
que je peux... Non, OK.
Je voulais juste essayer de pousser, mais s'il y a rien...
J'ai
rien.
Vraiment rien d'autre. C'est une légende. The end. OVNI. C'est sûr que des... Ça se peut que des gens qui disparaissent soient enlevés par les extraterrestres. Ça se peut. Quand j'ai recherché le triangle de Bennington, j'ai pas arrêté de voir qu'il y avait d'innombrables cas d'OVNI, mais j'en ai rien que trouvé un qui pouvait se sourcer.
Ouais.
Un vrai témoignage. En 1984, il y a plusieurs témoins qui ont affirmé avoir vu des lumières semblables à des silos. Tu sais, la genre de grosse affaire qu'on peut voir sur une ferme cylindrique.
Oui.
Ils ont vu ça jaillir dans le ciel en marchant le mont Glastonbury.
OK.
Fait que là, le monde s'imagine que, tu sais, c'est des extraterrestres qui s'en viennent, puis de temps en temps, ils pognent quelqu'un, puis... Moi, je crois aux extraterrestres. J'ai besoin de plus de jus, par contre, quand tu me mets une histoire d'extraterrestres. En 1984, c'était pas autant populaire, par exemple, les extraterrestres, là.
C'est ça, j'allais dire, c'était quand Roswell, puis tout, c'est...
Roswell, c'est dans les années 1947.
OK.
Fait que, tu sais, ça arrivait, mais c'était pas populaire.
Non,
tu voulais pas être le cave
qui
a vu un ovni, tu sais. Mais c'est ça, c'était pas encore aussi populaire, fait que le monde s'en vantait pas. Mais, tu sais, pour moi... Un témoignage, ça me prend plus pour me dire qu'il y a genre 7 personnes qui sont disparues avec un ovni.
Ouais, ouais. Puis c'est que dans tous les trucs qui se sont passés, ils en parlent jamais, là.
Non, c'est ça.
Il y a une personne qui fait, ouais, il y a eu de quoi de louche.
Ouais,
ou un
le
son
jour
bizarre,
avant, j'ai vu
ou,
des lumières, tu sais.
Ouais, exact. Et un bruit ou toutes les patentes quand il y a une histoire d'ovni, là, puis d'extraterrestres, genre, il n'y a rien de ça, là, c'est juste du monde qui disparaît. Fait que je suis pas là, moi non plus.
Non. C'est... Autant que j'aime ça, autant que j'y crois, c'est pas la mienne.
C'est qu'il y a plein de. Tu sais, il y en a avec des grosses pattes à terre, il y en a que c'est juste aucune trace, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont disparus. Je pense qu'il y a plusieurs sources.
Ah, tu penses?
Ah, ouais, ça se peut aussi,
ça peut-être.
Dans le fond, c'est une manigance dans le village. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils font des sacrifices humains.
Une autre affaire
oui.
par rapport à ça, que c'est tous des trucs séparés, les années entre les affaires qui sont arrivées, là, genre 100 ans.
Mais il y en a au moins 5 qui ça a été pas mal dans les mêmes 5 ans. Là.
Ouais.
Genre, à partir de Carl Eric jusqu'à Frida, là, c'est pas mal tout dans les mêmes années. Fait que ça en fait quand même une bonne petite poignée.
Ouais.
Puis ça m'amène à l'autre théorie du vortex et du portail. Fait que le portail, c'est une autre théorie qu'on a, que tu as mentionné, ma chère Catherine. Il y en a plusieurs qui pensent qu'il y aurait un portail dans le triangle de Bennington. Puis de ce portail-là, tu sais, il aspire autant du monde qu'à un moment donné, il ressort un Bigfoot, à un moment donné, il recrache un alien, il en respire une autre personne. C'est fantastique, c'est tiré par les cheveux, c'est de l'exagération, c'est de la fiction.
Non, on croit pas ça.
James Tedford qui est disparu
James
dans l'autobus, là, entre deux arrêts. Là. Je viens
ça,
de me souvenir
weird,
de ça,
ouais.
Puis celle-là.
Lui, il est bizarre, là.
Ouais. Dernière théorie, qui est très probable, quand même, ça se peut que c'est un tueur ou une tueuse en série. Les similarités entre tes disparitions poussent à croire qu'un tueur ou une tueuse en série serait responsable, parce que de 1943, comme on vient de dire, puis 1943 à 1950, il y a eu au moins 5 personnes qui sont disparues, puis c'est beaucoup. Le fait que ce soit presque toujours l'automne démontre que c'est pas juste un hasard. Tu sais, l'affaire qui va un peu à l'encontre de ça, c'est que les tueurs en série... Ils ont des patterns. Ils vont aller avec dans le même âge, ils vont tuer des gens du même sexe, ils vont tuer le même genre de personnes, t'sais, ils vont comme se fier à un profil. Mais durant la période de disparition de 1943 à 1950, il y avait autant des hommes que des femmes, des enfants, un jeune adulte, un homme âgé. C'est possible que ce fût quelqu'un qui allait selon les opportunités, genre « Hey, si je te pongue, je te tue. »
Ouais, c'est ça.
Mais dans ma tête, c'est pas une opportunité si t'as quelqu'un... Tu sais, t'as deux personnes, t'en as une à 10 mètres, t'en as une à 5 mètres, tu pongues une à 5 mètres. Tu sais, Midi Rivers... Il était avec 4 autres chasseurs qui le suivaient. À un moment donné, ils virent, ils ne le revoient plus. tu l'as kidnappé, tu sais, je peux bien croire, là, mettons, là, que c'est ça le trip du tueur. Ça veut dire que ni toi, mais le tueur, ni la personne que tu kidnappes fasse de bruit, puis que tu laisses pas de traces non plus. Un chasseur, c'est capable de pister, là, quand même un peu, là. Ça veut dire que les chiens pisteurs non plus ne trouvent pas. Ça se peut, mais là...
J'avoue que toutes les personnes qui ont disparu, ils étaient comme soit accompagnées de près ou de loin. T'sais, le gars qui était avec le groupe...
Mais Paula était seule. Le
chasseur. Était avec deux personnes âgées en arrière qui la suivaient.
Ça se peut qu'il y en a une dans le tas que c'est un tueur. Puis qu'il y en a un dans le tas que c'est un tueur. Ça veut pas dire que toute la gang. Mais c'est ce qui conclut mes théories.
C'est dur à... Moi, j'ai l'impression que c'est juste un hasard. T'sais, c'est un addon qu'il y ait du monde en la couleur rouge ou impliquée ou whatever.
Je pense que tu peux prendre n'importe quel parc ou forêt puis dire que c'est un triangle de quelque chose. En 2020, il y a eu 1600 disparitions inexpliquées dans des parcs nationaux en Amérique du Nord. Imagine au cours de 15 ans, 20 ans, 30 ans.
C'est ça mon point, là, dans le sens que c'est juste... Il y a plein de monde qui se perdent dans le bois. Là.
Oui.
Fait que t'sais, c'est pas... Que ça soit là ou ailleurs, on se fait des vues, je pense.
Ouais.
Il n'y a rien, là. Il se passe à rien. Pas plus qu'ailleurs, en fait.
Ah, il y a quelque chose de folklorique de se dire.
Ouais, ouais. C'est plus question de folklore, là.
Ça, pis... ça a dû faire des petites visites de touristes aussi, là. Check nous, on est comme intrigués d'y aller.
C'est sûr.
C'est sûr que ça peut c'est aider. Il y a du monde qui a vendu des livres avec ça aussi, là, tu sais. Mais le monsieur dans l'autobus, je n'en reviens pas, par exemple.
Ouais, lui, ça reste fucké.
Lui, je l'accepte pas.
Je pense qu'il était tout sous dans l'autobus.
L'alcool est en cause. C'était du moonshine.
C'est ça.
Sinon, mais comme je disais, il y a plusieurs autres triangles. Puis j'aimerais faire un petit énumération des autres triangles. Il y a le triangle de Bridgewater au Massachusetts. Là-bas, il y aurait des boules de feu et des mutilations de bovins, qui est une chose qui me terrifie, les mutilations de bovins. Moi, je suis pas bien que ça.
Ça, c'est très alien.
Ouais, vraiment.
Ça, c'est très alien.
Des boules de feu, pardon.
Oh mon Dieu, ça, là, vous allez faire ça sans moi, parce que non.
Certain. Non! Il y en a d'autres. Triangle du dragon dans l'océan Pacifique au Japon. Disparition de navires. OVNI, anomalie magnétique. Ouais. Après ça, il y a le triangle de Matlock en Angleterre. OVNI. OVNI en forme de cigare. En forme de chapeau melon. OVNI.
En forme de chapeau melon.
Forme de chat, je comprends même pas.
Parce que les ovnis en forme de cigare, c'est comme un classique des ovnis, là. Genre, on entend souvent ça quand même.
Probablement. Là. Là, maintenant, c'est les triangles qui sont à la mode.
OK, ouais. Nouveau
modèle. Mais cigare, ça te rappelle peut-être les silos qui ont été vus dans le triangle de Bennington? I don't know. Mais c'est ce qui conclut l'épisode du triangle de Bennington.
Beaucoup de stock.
Beaucoup de stock.
Beaucoup de petits stocks.
C'est ça. Si vous avez des théories, partagez-les sur Instagram. C'est quoi notre Instagram?
Petite frousse.pod. Salut, bye!
Bye!